Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous, merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous. Je ne crois pas être le seul à constater, lorsque je traverse les ponts enjambant la Garonne dans la métropole toulousaine ou en me promenant sur ses berges, que le niveau du fleuve chanté jadis par Claude Nougaro est particulièrement bas pour la saison, alors que la fonte des neiges est déjà très avancée, une situation qui se répète depuis des années et qui semble aller en s'accentuant, à tel point qu'on peut légitimement se demander si elle ne va pas créer de sérieux problèmes à l'avenir, et même dès cet été, des périodes d'étiage de plus en plus bas et qui se prolongent ont forcément des conséquences, et ce dans plusieurs domaines. Comment les pouvoirs publics prennent-ils en compte cette situation? Quelles réponses y apportent-ils? À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines années? Nous pouvons résumer ces questions en une seule et nous allons essayer d'y répondre au cours de cette émission. Faut-il s'inquiéter de la baisse régulière du niveau moyen de la Garonne à Toulouse? Et pour nous aider à répondre à cette question, nous avons l'honneur de recevoir Martin Malvy, à qui je souhaite aussi la bienvenue. Martin Malvy, on vous connaît bien sûr parce que vous avez été pendant 17 ans président de la région Midi-Pyrénées. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que vous êtes encore président d'un certain nombre d'associations ou de comités. Parmi ceux-ci, il y a le comité de bassin Adour-Garonne. Expliquez-nous ce qu'est ce comité et les raisons qui vous ont amené à en prendre la présidence.
Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité à parler de l'eau, qui est un sujet effectivement passionnant, dont il faut éviter l'exagération qui nous placerait dans une situation anxiogène qui ne réglerait rien en elle-même, mais qui mérite qu'on en parle, qui mérite qu'on sensibilise l'opinion, nos concitoyens, au-delà des pouvoirs publics, au problème que l'on rencontre aujourd'hui et qu'on va rencontrer demain. Moi, je me suis toujours intéressé à l'eau. J'ai toujours été un passionné de l'eau. Quand j'étais jeune, c'était la Dordogne. J'ai fréquenté la Dordogne pendant des années. J'ai présidé des syndicats d'aménagement de la Dordogne. J'ai contribué à faire partir les dragues, les entreprises de dragues qui, dans la rivière, se succédaient tous les 10 ou 15 kilomètres. Mais aujourd'hui, on est confronté à un problème auquel il faut effectivement essayer de répondre. Alors, les comités de bassin Adour-Garonne, qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Le comité de bassin Adour-Garonne, c'est une assemblée d'abord. Et c'est une assemblée de 135 personnes. C'est la représentation démocratique, en réalité, de l'Action pour l'eau. C'est une assemblée qui se réunit régulièrement, qui siège à côté de l'Agence de l'eau. Alors, l'Agence de l'eau, c'est un établissement public. Si vous voulez la différence, le président du conseil d'administration de l'Agence de l'eau, c'est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, désigné par le gouvernement. Le directeur de l'Agence de l'eau, c'est un fonctionnaire, désigné aussi par le gouvernement. Et puis, c'est une équipe de 200 à 250 personnes sur le territoire de l'Adour-Garonne. Le comité de bassin, lui, c'est une assemblée qui élit son président, qui n'a pas de moyens propres, mais qui intervient à peu près à tous les niveaux de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'eau, de la politique que mène l'agence. Les agences. Il y a 6 agences en France. Et Adour-Garonne représente 20% du territoire national, 10% de la population. On voit bien déjà qu'il y a un petit problème, à savoir que 10% de la population doivent gérer une politique de l'eau pour 20% du territoire. En gros, l'ex-Midi-Pyrénées et la Nouvelle-Aquitaine. Et cette assemblée de bénévoles, ils sont tous bénévoles, est composée de gens qui, dans la vie courante, ont des intérêts souvent contradictoires sur la rivière. Il y a là les consommateurs qui sont représentés, les associations protectrices de l'environnement, il y a les agriculteurs, il y a les industriels, il y a les services de l'État. Autour de la table et dans l'hémicycle, il y a tous les usagers de l'eau. Et si les positions peuvent être parfois contradictoires, parce que les intérêts sont contradictoires, à l'arrivée, on constate qu'il y a une assez grande unanimité pour définir ces politiques. Voilà, en gros, pour ce qui est de la présentation, comité de bassin, assemblée, on parle du Parlement de l'eau. Comité de bassin, Parlement de l'eau, à côté d'un établissement public qui est l'Agence de l'eau.
Eh bien, je crois que vous avez parfaitement résumé la situation et le fonctionnement donc de la politique de l'eau en France. Le Parlement de l'eau, ce sont les comités de bassin. Et puis, l'établissement qui met en œuvre cette politique, ce sont les agences de l'eau. Je pense que c'est clair. Maintenant, pour nos auditeurs, merci pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant retrouver Corinne Saint-Félix pour son flash d'information et les temps forts de l'actualité de la métropole toulousaine. Que s'est-il passé récemment sur le territoire métropolitain? Métropolez-vous l'actu. Nous commençons ce flash par une information qui concerne les motocyclistes. Toulouse Métropole élargit son offre de stationnement dédiée aux motos pour les résidents du centre-ville.
Effectivement, depuis le 1er mai, le nombre d'emplacements motos dans le parking du Capitole passe de 50 à 80 places pour les résidents du centre-ville. Dans ce parking, 139 emplacements motos sont désormais proposés, dont 80 réservés aux résidents. Ces 30 places supplémentaires permettent de limiter le stationnement sur la voie publique et d'améliorer le partage de l'espace public entre les différents usagers. Des arceaux vélos prévus sur la voie publique sont aussi libérés pour laisser les cyclistes stationner leur vélo. Cette extension vient d'être adoptée au Conseil de la Métropole, c'était le 11 avril, et sera mentionnée dans un avenant au contrat de délégation de service public avec Indigo. Petit rappel bien pratique pour les conducteurs de deux roues motorisées, vous êtes passible d'une amende de 35 € en cas de stationnement gênant, à savoir sur les trottoirs, les aires de livraison, emplacements spécifiques ou encore autopartage, voire de 135 € en cas de stationnement très gênant. Il s'agit des voies vertes, les bandes et pistes cyclables ou encore au droit des bouches d'incendie, places PMR et bien d'autres.
Comme vous le savez, les élections européennes approchent. C'est aussi le cas de la Semaine de l'Europe qui se prépare dans la métropole.
Oui, Toulouse Métropole fête cet événement en organisant de nombreuses journées d'information, d'échange et de partage dans plusieurs villes de la métropole du 3 au 19 mai. Ces festivités et activités s'articulent autour de la Journée de l'Europe le 9 mai. Vous pouvez découvrir tout le programme sur le site internet www.toulouse-métropole.fr.
La végétalisation du territoire métropolitain est un des grands thèmes de l'année 2019 et d'ores et déjà, 2400 arbres ont été replantés autour du canal du Midi au cours de l'hiver 2018-2019.
Oui, depuis décembre 2013, la mission mécénat de Voies navigables de France met en place des actions pour sensibiliser le grand public et les entreprises et récolter des dons au profit du vaste projet de replantation du canal du Midi. À ce jour, 10400 arbres ont été replantés, dont 2400 au cours de l'hiver 2018-2019. Le canal du Midi est bordé à 90% de platanes. Victime d'une maladie incurable, le chancre coloré, les arbres contaminés doivent être abattus et de nouvelles essences replantées.
Et ce projet de replantation, qu'est-ce qu'il comprend exactement, Corinne ?
Eh bien, il y a l'abattage des arbres malades ou morts, la rénovation des berges, la plantation de nouveaux arbres, en grande majorité des chênes chevelus, et la mise en place de mesures de protection de la biodiversité animale. Le canal du Midi et le canal de Brienne sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, et ces joyaux du patrimoine pour lesquels Voies navigables de France et maîtres d'ouvrage sont des atouts majeurs pour l'attractivité et pour le tourisme. Toulouse Métropole a mobilisé 2,5 millions d'euros sur la période 2015-2020 avec des aides de VNF, la région Occitanie et l'agence de l'eau Adour-Garonne.
Voilà, donc c'était le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix et Martin Mali, peut-être une réaction. La dernière information de ce flash, c'est 2400 arbres replantés autour du canal du Midi cet hiver. Une initiative à laquelle l'agence de l'eau Adour-Garonne a participé en apportant une aide financière. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler l'importance de la végétalisation des berges, des rivières et des fleuves.
Oui, quand j'étais président de région, j'avais fait inscrire le canal du Midi. Il y a plusieurs contrats de plan entre l'État et la région. Il n'y a pas eu l'engouement à l'époque que mérite le canal. C'est difficile. Il y a eu de belles opérations de fait, mais trop modestes. Donc si aujourd'hui on va de l'avant, je m'en féliciterai, je m'en réjouirai. Avec ce problème qui est celui des arbres et des replantations, il va falloir pendant quelques années s'habituer à ce que le canal ne soit plus planté de ces beaux arbres, mais qui, quand le canal a été créé, n'existaient pas non plus. Donc, il faut entretenir, bien entendu, nos rivières si l'on veut qu'elles restent vivantes, qu'elles restent poissonneuses. On dresse le constat d'une diminution de la faune qui est liée à un certain nombre de phénomènes. D'abord les pollutions, le niveau de l'eau, on en reparlera, l'augmentation de la température. Et ça n'est un secret pour personne aujourd'hui, c'est même affirmé de manière haut et claire. Ce sont des centaines de milliers d'espèces qui sont en voie de disparition.
Oui, de par le monde.
Faune,
oui.
Flore.
Oui, oui, tout à fait.
On oublie beaucoup trop ce mouvement qui est en train de se développer.
Et qui est très inquiétant, vous avez raison de le rappeler. On aura peut-être l'occasion de parler encore de la végétation sur les rives de la Garonne. En revenant maintenant au sujet et à la question au centre de ce numéro de Métropole et vous, faut-il s'inquiéter de la baisse régulière du niveau moyen de la Garonne à Toulouse ?
Métropole et vous.
Métropole et vous, Le focus de la semaine.
Métropolez-vous, la suite avec notre invité Martin Malvy, président du comité de bassin Adour-Garonne. Le niveau de la Garonne et de ses affluents à ce moment de l'année paraît donc très en dessous de la moyenne et suscite bien des inquiétudes, surtout si un été chaud et sec fait suite au printemps, alors que la neige a déjà beaucoup fondu dans les Pyrénées. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'on a de bonnes raisons de s'inquiéter? Est-ce que la situation des nappes phréatiques du bassin de la Garonne est vraiment inquiétante? Est-ce que la pluviométrie était très en dessous des standards cet automne et cet hiver?
Alors, je vous ai dit ce que représentait le bassin Adour-Garonne. Le bassin Adour-Garonne, 20% du territoire national. Je crois qu'il faut resituer la Garonne dans le cadre général de ce territoire. Encore une fois, 10% de la population française, 20% de l'espace national. Ce territoire sera, d'après ce que nous disent tous les spécialistes, le territoire français le plus concerné par le réchauffement climatique. Il faut partir de là, avec des annonces qui sont inquiétantes. S'il ne fallait retenir qu'un chiffre, c'est celui-là. Aujourd'hui, sur ce territoire, nous consommons 2,4 milliards de mètres cubes d'eau par an. Et le déficit annoncé, avec un réchauffement de la température de 2 degrés, pas avec 4 degrés, avec 2 degrés, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur une perspective 4 degrés fin de siècle. Le déficit serait de 1,2 milliards à échéance de 30 ans. C'est-à-dire que notre déficit dans 30 ans serait de 50% de ce que nous consommons aujourd'hui. Dans un moment où nous aurons sur l'axe Garonne, c'est-à-dire entre Toulouse et Bordeaux, 1,5 million d'habitants de plus.
Oui, parce que c'est une donnée très importante.
Bien sûr. Et où l'augmentation de la température ne sera pas sans conséquence sur l'eau en général et les pollutions, et la baisse des débits sur la possibilité d'alimenter en eau. Autrement dit, nous sommes véritablement, et là, nous avons besoin d'une prise de conscience collective, parce qu'il faudra changer les habitudes. D'ailleurs, on ne peut pas dire « qu'est-ce que vous allez faire pour enrayer le réchauffement ?» Aujourd'hui, c'est une décision qui appartient aux États, au monde, qui est dans une inconscience dramatique. La conférence de Paris a été un grand succès. Mais on voit aujourd'hui que la conférence de Paris est oubliée. Le consensus autour des 2 degrés, c'est terminé. Donc on est dans un mouvement dont il faut mesurer l'ampleur. Il n'y a pas une situation particulière pour la Garonne. C'est-à-dire que la Garonne, à la limite, elle est relativement préservée dans la mesure où elle peut se réalimenter ou en partie être réalimentée par les barrages. Les barrages hydroélectriques, Montbel, ça représente près de 60 millions de mètres cubes par an à disposition de la réalimentation de la Garonne.
Qui sont des réserves constituées.
Oui, et l'agence n'est pas neutre là, puisque l'agence finance les lâchers d'eau qui ont lieu tous les ans. Autrement dit, il y a une situation qui est plutôt plus favorable
qu'ailleurs.
Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, les différentes collectivités, la métropole, le département, la région, l'agence, travaillent sur un projet de réalimentation sur Garonne-Amont. J'espère qu'il aboutira. Mais les projets que nous avons aujourd'hui de réalimentation sur le territoire ne représentent pas du tout l'équivalent de ce que nous allons perdre en quantité d'eau avec... Une particularité, c'est que les périodes d'étiage vont s'allonger. Alors vous dites aujourd'hui à Toulouse, oui, quand je traverse les ponts, j'ai parfois l'impression que bientôt je pourrai traverser aussi la Garonne
à pied.
Et je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment. Alors il faut s'attendre, c'est ce que les scientifiques, Météo France, nous disent et qui n'est pas contesté, il faut s'attendre à ce que dans les 20-30 ans qui viennent, le débit baisse de 30%. Donc c'est 30% de moins que ce que l'on a aujourd'hui. On imagine effectivement ce que sera la situation. D'autant plus que comme la population aura augmenté, comme la température aura augmenté, on sera confronté à de nouveaux problèmes, y compris en matière de température de l'eau distribuée, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais les gestionnaires des réseaux d'eau n'ont pas le droit de vendre de l'eau, de distribuer de l'eau à plus de 23 degrés. On est aujourd'hui à certaines périodes, pas très loin des 23 degrés.
Oui,
pourquoi
oui.
23 degrés
oui.
C'est un problème de développement et de pollution des bactéries.
Alors justement, je vais revenir à la qualité de l'eau, parce qu'évidemment, moi j'ai tendance à penser qu'à quantité de pollution égale, sans même l'augmenter, avec un moindre débit, la pollution va être plus concentrée, inévitablement. Donc aujourd'hui, quelle est la situation de la qualité de l'eau de la Garonne et de ses affluents éventuellement, et comment évolue-t-elle?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la qualité est bonne. Jamais il n'y a eu autant de contrôle. L'agence de l'eau consacre 20 millions d'euros par an au contrôle, aux analyses, C'est considérable, hein, 20 millions d'euros par an. Ce sont plus de 30 000 indicateurs qui sont collationnés tous les ans. Donc on peut dire que la qualité de l'eau est bonne et satisfaisante. Ce qui ne veut pas dire que nous répondions aujourd'hui sur la qualité des eaux aux critères européens. Et il y a une politique européenne de l'eau qui, à horizon de 2027, voudrait que la totalité des masses d'eau soit en bon état. Or, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce que pas les moyens financiers d'y parvenir. Et par ailleurs, c'est très difficile en Adour-Garonne, plus difficile qu'ailleurs, en raison de cette grande superficie, du fait qu'il y a des réseaux d'adduction d'eau qui sont extrêmement longs. Il y a plus de 150 000 kilomètres de réseaux de distribution d'eau. Il y a à peu près autant de kilomètres de cours d'eau en Adour-Garonne. C'est beaucoup plus, par exemple, que dans la région parisienne, où il y a une densité de population qui est beaucoup plus forte. Quand il y a 120 ou 130 000 kilomètres de réseau d'eau en Adour-Garonne, il y en a 50 000 dans la région parisienne, dans le bassin Seine-Normandie. Donc, oui, on aura des difficultés nouvelles. On n'est pas sans réponse. Et c'est la raison pour laquelle nous venons d'adopter, en juillet dernier, on a adopté, après 3 ans d'études, un plan d'adaptation au changement climatique, qui a été adopté, je parlais tout à l'heure de la diversité du comité de bassin, à l'unanimité, moins une voix, ce qui dit bien la vocation intérêt général. C'est un plan d'adaptation au changement climatique.
Je reviens sur la pollution. Il y a une forme de pollution insidieuse dont on commence à parler de plus en plus, c'est la pollution médicamenteuse. Est-ce qu'il y a des études qui sont menées là-dessus et quels sont les résultats ?
Oui, nous, en ce qui nous concerne, en tout cas le comité de bassin et l'agence, nous nous sommes dotés, il y a 10 ans à peu près, d'un comité scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un comité scientifique bénévole, comme tous les membres du comité de bassin, je le précise, hein, qui sont des bénévoles, un comité scientifique qui nous accompagne et je pense que nous tiendrons, nous organiserons d'ici la fin de cette année, 2 colloques. Un colloque eau santé et un colloque eau urbanisme. Parce qu'on évoquait l'augmentation de la population sur l'axe Garonne, c'est-à-dire Toulouse-Bordeaux dans les années qui viennent, se pose le problème de où vont habiter ces nouveaux habitants de l'axe Garonne. Vont-ils habiter aux proximités de Bordeaux et de Toulouse ou vont-ils participer à la reconquête du logement vacant dans les villes ? Un individu qui s'installe quelque part, il consomme de l'espace, il consomme du terrain. Et il consomme entre 250 et 500 mètres carrés de terrain, selon les statistiques, parce que les unes prennent en compte ce qui est induit par l'installation, indirectement. On a installé des familles, il faut construire des écoles, donc on artificialise des sols. Le problème de l'imperméabilisation des sols, de l'artificialisation des sols, s'il ne l'est pas maîtrisé, c'est-à-dire que si ces populations nouvelles continue à consommer du terrain, terrain industriel, terrain des grandes surfaces commerciales, le terrain de l'habitat, alors qu'il y a de l'habitat à reconquérir dans les centres anciens, si toutes ces populations s'installent dans les périphéries, on va encore aggraver la situation du réchauffement, de moins d'eau. Donc si on n'a plus de pénétration, si on concentre les eaux à des endroits très précis, les eaux polluées, réchauffées, on va ajouter un problème à un autre.
Oui,
donc la répartition de l'habitat jouera aussi beaucoup dans la politique de main. Donc on aura deux débats, un sur la santé, un sur l'urbanisme, le colloque, parce qu'effectivement, apparaîtront très certainement beaucoup plus qu'aujourd'hui les conséquences des pollutions chimiques, pharmaceutiques, avec les rejets qui se font et qui ne sont pas maîtrisés. La science va évoluer. On trouvera de nouvelles pollutions. Ce serait totalement irresponsable de dire le contraire. Donc ça ajoutera aussi au problème.
Oui, alors les solutions maintenant. On nous annonce quand même des étiages de la Garonne divisés par 2 d'ici 2050. Vous allez confirmer, je pense, ce que je dis là. Les conséquences viennent avoir pour l'agriculture, l'irrigation a priori. Et même, est-ce qu'on ne peut pas craindre pour l'alimentation de métropoles de la taille de
oui.
Toulouse ?
Alors on nous dit que, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'en matière de pluviométrie, il n'y aura pas de changement quantitatif majeur dans les 50 ans qui viennent, 30 ans, 50 ans qui viennent. Par contre, la manière dont l'eau se précipitera, elle, cette manière-là, elle va évoluer beaucoup. Et ça aura aussi des conséquences, notamment sur l'érosion des terres. Alors moi, je ne suis pas spécialement inquiet sur Y aura-t-il encore de l'eau pour alimenter les Toulousains dans les années qui viennent? Bon, aujourd'hui, si je prends la situation aujourd'hui, on a une pluviométrie qui est en baisse depuis le mois d'avril, depuis le début avril, mais elle n'est pas pire sur l'espace toulousain que sur l'ensemble du bassin d'Ourcq-Garonne. On est à peu près à 25% de déficit. Je crois qu'à Blagnac, les mesures, au lieu d'être 420 m3, sont à 300 et quelques. Ce n'est pas dramatique. La nappe, aujourd'hui, n'est pas dans une situation extrêmement difficile. Elle peut le devenir parce que le manteau neigeux a disparu. Il y a beaucoup neigé.
Oui, mais il n'y en a plus maintenant.
Mais on ne peut pas s'arrêter à l'observation d'une année. Il faut se projeter dans le temps si on veut avoir un éclaircissement sur la politique de l'eau. Ce qu'on sait, et c'est le socle, c'est que de toute façon, la température va augmenter, qu'on ne maîtrise pas les 2 degrés, qu'on sera plutôt vers 4 degrés. D'ailleurs, l'agence fait des études avec nous, on fait des études. On a fait une étude sur Garonne 2050, les projections à 2050. On a fait des études sur la Dordogne 2050. J'étais, moi, avant-hier à Cognac, sur le sous-bassin de la Charente. L'étude est en cours sur Charente 2050. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura moins d'eau et plus chaud. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il faudra gérer différemment. Alors, il y a, oui, dans le plan d'adaptation au changement climatique, il y a une centaine de mesures qui sont envisagées. Alors, si on résume l'essentiel, la première, ce sont des mesures sur la nature elle-même, c'est-à-dire s'assurer du bon écoulement des eaux, préserver la biodiversité.
Préserver les zones humides aussi, sans doute.
Les zones humides, bien entendu, faire des gros efforts dans ce domaine-là. Ça, c'est la première mesure, c'est s'adresser à la nature elle-même pour empêcher les dégradations. Vous savez, on sait très bien qu'une pollution à une situation d'amont pour stockage de l'eau, pour une raison ou pour une autre, a des conséquences sur l'aval, surtout avec l'augmentation des températures. Donc la biodiversité d'abord, c'est la première mesure. La deuxième, incontestablement, ce sont les économies. Il faut s'apprêter à consommer moins d'eau.
Moins d'eau.
Ce n'est pas une pénalité forcée si d'ici là, on arrive à mettre en place à la fois des technologies permettant de mieux consommer et des habitudes permettant aussi de consommer d'une manière plus efficace. Il y a incontestablement l'évolution des filières économiques, l'évolution de l'agriculture. Ça n'est pas un choix. Jamais les hommes ne se sont posé la question de savoir si après avoir réalisé un système d'adduction d'eau, il y aurait de l'eau au dernier robinet. Ça n'a jamais effleuré. Aujourd'hui, on sait que c'est la question qui est posée.
Mais que la ressource n'est pas inépuisable.
La ressource n'est pas inépuisable. On peut tout à fait imaginer qu'il y aura des heures, il y aura des moments dans lesquels il n'y aura pas d'eau. Donc il faut adapter les filières économiques aussi, et notamment la filière agricole. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une pénalité, c'est une
nécessité.
Réalité. Les économies, la biodiversité, l'adaptation des filières, la mise à mal de l'imperméabilisation des sols, les nouvelles technologies avec les PLU, les PLUI, les SRADET pour les régions, il y a la possibilité d'habiter autrement. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont possibles à mettre en œuvre. En a-t-on les moyens?
Oui.
C'est une question.
Oui, bien sûr.
C'est une question. Moi, j'ai dû me battre avec le comité de bassin pour préserver nos ressources financières, celles de l'agence. Puisque, en gros, l'agence dispose sur ses programmes, les programmes sont de 6 ans, de 270 millions d'euros opérationnels chaque année, et le budget qui nous était proposé était à hauteur de 210 millions, c'est-à-dire une chute considérable. Et nous nous sommes battus en développant précisément ce caractère exceptionnel du bassin d'Ourcq-Garonne, c'est d'ailleurs celui qui sera le plus concerné, le plus frappé dans les années qui viennent au plan national. On a obtenu gain de cause en partie auprès du gouvernement puisqu'on est à 250 millions. Mais la partie qui est vouée à la mise en œuvre du plan d'adaptation au changement climatique devient la partie majeure de la politique de l'agence. Puisqu'on aura une pénurie d'eau, alors que jusqu'à maintenant, pendant des années, c'était ce qu'on appelle le petit cycle, c'est-à-dire l'alimentation tel robinet. Aujourd'hui, c'est plus le robinet, c'est la capacité de maintenir de l'eau dans les tuyaux. Donc c'est ce qu'on appelait le grand cycle qui devient la priorité des priorités. On a estimé, avec l'agence, on a estimé à 5 milliards d'euros les moyens à mettre en œuvre d'ici 2050 pour procéder à cette adaptation, c'est-à-dire à 160 millions par an. Et nous n'y parviendrons pas s'il n'y a pas une évolution. Et là, c'est la prise de conscience qui doit nous permettre, dans les années qui viennent, de remonter à des niveaux de financement plus importants qu'aujourd'hui. Et créer une nouvelle ressource en eau, il faudra aussi créer de nouvelles ressources en eau. Il faudra aussi créer des retenues. J'ai évoqué ces 2,4 milliards que nous consommons aujourd'hui, à comparer aux 94 milliards de mètres cubes qui tombent sur Adour-Garonne. Et nos rivières, nos ruisseaux en captent une trentaine de milliards. Donc, il n'y a pas de manque d'eau en tant que tel, même si, encore une fois, à échéance, on aura les cataclysmes que l'on sait, qu'on en a eu
oui.
dans le secteur, dans la région. Mais il n'y aura pas de manque d'eau. Donc, il faut aussi savoir, en gardant raison, créer de nouvelles ressources. Et là, pour éviter les conflits que l'on connaît, on en a connu de dramatiques ici à Sivens, hein, pour éviter les conflits, il faut ce qui est devenu la règle aujourd'hui, c'est-à-dire développer des projets de territoire, c'est-à-dire sur un territoire où on aura un manque d'eau, mettre autour de la table les différents acteurs du territoire, les différents usagers de l'eau, pour définir ensemble les ressources à créer pour passer le cap de ces années qui viennent.
Une prise de conscience plus que jamais nécessaire, et puis la nécessité aussi de faire des émissions comme celle-ci. Merci d'y avoir participé, Martin Malvy, et nous avoir prodigué toutes ces informations sur ce sujet complexe qu'est l'évolution du niveau de la Garonne ces dernières années, et puis plus largement celui de la gestion de l'eau, un sujet qui suscite de nombreuses inquiétudes et qui revêt beaucoup d'enjeux, comme vous avez pu le voir tout au long de notre discussion, des enjeux écologiques, des enjeux pour l'agriculture et des enjeux pour l'alimentation en eau de la métropole toulousaine. J'espère que nous aurons réussi à les cerner, à vous les présenter et à vous en faire prendre conscience sans être trop alarmiste pour autant. Il est important que chacun d'entre nous soit informé de l'état de nos cours d'eau et convaincu de la nécessité impérative d'assurer leur protection. Je vous invite à suivre les actions que mène l'Agence de l'eau en consultant son site internet www.eau-adour-garonne.fr. Vous y trouverez tous les détails et les suivis que vous souhaitez. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.